Non, non, mais ce que je veux dire, avec la guitare comme ça. Là. Ah, il est dans le sac, la sacoche, là, derrière. Hein? Après la chaise, ouais. Ah non, tu peux t'asseoir là. Je pense qu'il va y avoir deux enregistrements, fait que c'est parfait.
Ah, ben si, enregistrement.
Ouais?
Oui.
Bon,
c'est déjà parti.
C'est déjà parti. Ah, ben, go, vas-y. Est-ce que tu veux me donner une bitrine, tu
veux?
Hein? Tu veux me donner une bitrine?
Yes.
Fait que, faut pas qu'il y ait personne qui pète, là, ça n'agresse.
Bon. Voyons, Ben, rien que toi qui est capable de péter.
Ah. Bon. Ça, j'imagine que ça se lève, ça.
Oui,
Ah, OK. Bon.
C'est bien bizarre, ça
marche. Bon. OK. Alors, bonsoir. Je suis content d'être ici avec vous ce soir. Je suis bien béni. Béni aussi que ce soit mon épouse qui a fait les louanges. Je l'ai dit tantôt, mais je le redis parce que j'aime ça l'entendre louer Dieu à la guitare. Et ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Parce que là, chez nous, on est dans les boîtes. Il faut comprendre qu'on est dans les boîtes chez nous. Sa guitare est serrée et en arrivant, on déménage. Alors, c'est pour ça que ça faisait du bien de l'entendre à nouveau chanter comme ça. Alors ce soir, la semaine passée, j'étais en train de jaser, de discuter avec mon ami Gilles. Et il m'a demandé de partager sur quelque chose. Et c'est un petit peu à cause de lui que je prêche ça ce soir. Fait qu'il n'est pas là. Fait que...
C'est lui qui m'a demandé.
Ah, c'est lui qui t'a demandé. Bon. Ben, go, vas-y. Si on peut tourner dans nos Bibles, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, 25. Et on va remettre ça au Seigneur tandis que les gens tournent dans leur vie. Fait, Père, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ta parole ce soir, Seigneur Dieu. Merci de nous enseigner, merci de nous éduquer, merci de nous aider à saisir ta parole, Seigneur Dieu, puis à vraiment la comprendre, bien l'appliquer dans nos vies, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Dans ton prix, sinon, Seigneur Jésus. Amen. Alors, le texte d'Hébreu 10, 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour arriver. Et le texte poursuit en disant, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Évidemment, c'est le contexte spécifique à l'Épître aux Hébreux. On se rappelle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire, ça se passe un peu avant que Rome vienne et détruise Jérusalem. Et c'est une lettre d'avertissement aux chrétiens juifs qui habitent Jérusalem de dire « Sortez parce qu'il y a un jugement qui vient sur la nation, le jugement de l'an 70, où est-ce que Rome va venir détruire la ville, détruire le temple, et il va y avoir énormément de morts parmi les juifs à ce moment-là. » Et l'histoire nous rappelle, l'histoire nous raconte en tout cas, que les chrétiens de l'époque sont sortis massivement, probablement suite à l'Épître aux Hébreux qui leur est parvenue, sont sortis massivement de Jérusalem, ils ont été se réfugier l'autre bord du Jourdain, et l'histoire nous raconte que pas un d'entre eux, en tout cas, à notre connaissance, est mort, ceux qui ont écouté et qui sont sortis justement de Jérusalem parce que le jugement s'en est. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, cinq fois, l'auteur va avertir les Hébreux, les Juifs, que si on pêche volontairement, il n'y aura pas de miséricorde. Évidemment, ça rappelle le jugement de Nombre 14 dans le désert, à Kadesh-Barnéa, quand les Juifs ont refusé, ou en tout cas, ils ont écouté les 10 plutôt que les 2. Le témoignage des 10 espions se rappelle un peu. Dieu avait dit à Israël de rentrer dans le pays, dans la terre promise. Israël avait dit, on va envoyer des espions voir qu'est-ce que ça a de l'air. 10 sont revenus en disant, c'est pas prenable, on peut pas rentrer dans la terre promise, on va se faire massacrer. 2, Josué et Caleb ont dit, non, on peut rentrer, on peut conquérir, on est capable. Le peuple a dit, non, on va écouter la voix des 10 plutôt que la voix des 2. Ils ont été jugés d'un jugement sévère. Le lendemain même, ils ont voulu obéir à la voix de Dieu. Ils ont été pour traverser, ils se sont fait massacrer. Nombre 14, Moïse avait dit, pardonne à ce peuple. Dieu avait dit à Moïse, je les pardonne, mais ils n'entreront pas dans mon repos. Alors le jugement de Kadès-Barnéa, ce n'était pas un jugement, c'était un jugement physique. Dieu avait pardonné le peuple, mais il n'entrerait quand même pas dans son repos et toute la génération des 20 ans et plus parmi les hommes allait mourir. Et 5 fois dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur rappelle ce qui s'est passé et vraiment se base sur tout ce jugement de Kadès-Barnéa, un jugement physique, pour avertir les Juifs chrétiens de l'époque que s'ils ne font pas attention, eux vont participer au jugement physique de la nation d'Israël avec le jugement de 70. Ça, c'est ce qui se passe un petit peu dans le contexte historique là, de ce qu'on voit là. Maintenant, il dit « Abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns parce qu'il va y avoir un jugement. » N'oubliez pas, la tendance à l'époque, c'était « Je vais me retirer de l'assemblée, je vais me joindre à l'adoration que tout le monde fait au temple ou dans les synagogues pour pas me faire persécuter. » Parce que les gens se faisaient persécuter, et c'est pour ça qu'ils quittaient les assemblées locales, se joignaient au rassemblement national, ou en tout cas de la religion de l'époque, pour éviter la persécution. Et l'auteur de l'Épître dit « Abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Hein? » D'autant plus parce qu'il continue en disant « Il va y avoir un grave jugement. » C'est le contexte de l'Épître aux Hébreux, mais moi, c'est l'application que je veux tirer de ça. L'auteur nous dit « Abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Vous savez, au Québec, depuis que je suis petit, depuis Vatican II, depuis la Révolution tranquille, je sais que la majorité d'entre nous, quelques-uns peuvent s'en souvenir, d'autres non. Ou en tout cas, depuis la Révolution tranquille, il est courant au Québec de dire « Je suis catholique non pratiquant. » On l'a entendu, hein? Mais combien aujourd'hui on entend dire, on pourrait dire, je suis évangélique non pratiquant. Ce qui s'est passé au niveau du catholicisme se passe au niveau du monde évangélique. Je suis évangélique non pratiquant. Puis je me dis, je peux vivre ma spiritualité chez nous, exactement comme les catholiques ont dit, suite à la Révolution tranquille, tranquillement on délaisse les églises, je vis ma vie chrétienne chez nous, je vis mon catholicisme chez nous, et on fait la même chose. Comme si ce qui s'est passé au niveau de la culture du québécoise, c'est transvisé dans l'Église, puis les gens de l'Église, les évangéliques, les chrétiens, ont gobé ça tout cru. Le même problème, ils l'ont gobé tout cru. Et donc, le danger, et le danger que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, on le trouve un petit peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Et au chapitre 13, verset 9, l'auteur va dire « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il va continuer en disant « Non, par des aliments qui n'ont servi à rien. » Il continue son sujet, mais ce que je veux regarder dans ce verset-là, au verset 9, c'est vraiment, d'une part, dans 10-25, abandonne pas ton assemblée. Donc, laisse-toi pas entraîner loin de ton assemblée. Puis ici, laisse-toi pas entraîner par dans des doctrines diverses et étrangères. Laisse-toi pas avoir, en quelques mots. Laisse-toi pas avoir, reste ferme. Reste ferme dans ce que tu as appris. Reste ferme dans ta marche chrétienne. Reste ferme pour marcher avec le Seigneur. Et dans tout le contexte de l'Épître aux Hébreux, où est-ce que je vous ai parlé un petit peu, de l'avertissement qui est fait à Israël, ou en tout cas aux chrétiens juifs de l'époque, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le même contexte, on voit que Paul, vers la fin de sa vie, vers la fin des Actes des Apôtres, au chapitre 20 des Actes des Apôtres, Paul s'en va, il s'en va, lui, il pense que bientôt il s'en va se faire massacrer, si on veut. Il s'en va à Rome pour faire appel à César. Il n'est pas certain de pouvoir revenir de là. Et Paul, pasteur Jean-Sébastien en a parlé dimanche, va arrêter pas loin d'Éphèse. Il ne veut pas arrêter à Éphèse. Il va faire appeler les chrétiens dans un petit port à Milet. Et il va il va parler aux anciens. Et au chapitre 20 du livre des Actes, il va leur adresser ses dernières paroles de vive voix. D'ailleurs, l'émotion est très, très forte. Les gens vont pleurer. Les gens, ils voient Paul, ils le savent, que c'est probablement la dernière fois qu'ils le voient. Ils sont bouleversés à l'intérieur, ils en braillent. Puis Paul, parmi les dernières paroles qu'il va leur dire au chapitre 20, il va dire « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou pasteur, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Alors, Paul le savait. Paul savait qu'après son départ, il s'en allait à Rome. Il allait avoir des hommes qui allaient rentrer, des loups ravisseurs. D'ailleurs, Jésus l'avait dit qu'il allait avoir des loups habillés en vêtements de brebis, hein, qui allaient rentrer dans l'Église, qui allaient détourner les gens du saint message, hein, de l'Évangile. Paul ici avertit qu'il va y avoir des ravisseurs, des gens qui vont venir pour détourner le troupeau de Dieu de la parole de Dieu. C'est ça que Gilles m'a parlé la dernière fois. Il m'a demandé, pourrais-tu parler justement de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Église locale, elle est importante? Puis quel danger guette, hein? Les gens qui sont pas fermes avec leur Église, qui sont pas fermes avec la parole de Dieu. Alors ce soir, un petit peu, je veux faire du pouce avec ça. Puis je veux parler de ça. Je veux parler des ravisseurs, des sortes de ravisseurs qui peuvent venir dans l'Église ou autour de l'Église pour essayer de détourner, hein, les croyants de leur assemblée et ou de la parole de Dieu. Puis le premier que je veux voir ce soir, ben c'est ce qu'on appelle l'hérétique. L'hérétique, c'est quoi? Mais c'est celui qui va enseigner des doctrines qui sont contraires à ce que l'Écriture enseigne et des doctrines qui sont vraiment, vraiment contraires. On pense, quand on parle d'hérétique, là, on pense à un gars qui s'appelait Arius. Arius, c'est un gars du 3e siècle. Il a commencé à dire que Jésus-Christ était un ange, qu'il était une créature. C'est le premier témoin de Jéhovah. Arius, c'est l'ancêtre des témoins de Jéhovah, 2e siècle, commence à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est un hérétique. Ça, vraiment, il va à l'encontre de la parole de Dieu. Un autre hérétique de l'époque s'appelait Sabellius. Lui, Sabellius, c'est comme le contraire de... C'était comme le contraire d'Arius un peu. Lui, Arius disait « Jésus-Christ n'est pas Dieu ». Sabellius lui disait « Ben le Père et le Fils, c'est la même personne. Il n'y a pas de Trinité. Tout est un seul Dieu. » Ça, c'est des hérétiques. Ça, c'est vraiment des hérétiques. Et il va y avoir des hérétiques, il y en a toujours eu dans l'Église, après que Paul soit parti, des gens qui viennent enseigner les hérésies, qui essaient de détourner les croyants de ce que la parole enseigne. Alors, on voit déjà dans 2 Pierre 2.1, il dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Le mot « secte pernicieuse » en grec, « hérésie ». Des hérésies pernicieuses. Ils vont détourner les gens de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût, il faut toujours être à l'écoute de dire « Qu'est-ce que la Bible enseigne? » Puis, dans l'Église, un croyant qui est dans l'Église, il est plus à l'abri. Il n'est pas complètement à l'abri parce que si... Il commence à écouter des doctrines qui commencent à le séduire. mais il peut être ébranlé. Mais c'est sûr qu'un chrétien qui se retire de l'Église, qui se retire de l'enseignement, qui se retire de... Parce que c'est l'Église locale que Dieu a instituée. Paul, il fondait les églises locales. Dieu a décidé que l'Église locale serait le poste, serait la représentation terrestre de l'Église universelle. Puis le but de Dieu, ou le plan de Dieu, c'est que l'ensemble des églises locales terrestres, puis l'ensemble des croyants vivants sur terre, ça corresponde. Je veux dire que tous les croyants terrestres soient dans les églises locales. Dans le plan idéal de Dieu, ça serait ça. Évidemment, les croyants qui sont allés au ciel font partie de l'Église céleste. Hein, ils sont au ciel avec Dieu, gloire à Dieu. Mais les croyants terrestres, optimalement, dans le meilleur des mondes, seraient tous dans les églises locales. Mais évidemment, Satan vient, détourne les cœurs. Et vous savez, à l'origine, Jésus va le dire, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Les hommes sont des intrus dans l'enfer. Les hommes sont des intrus parce que Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Idéalement, il n'y aurait pas d'être humain en enfer. Malheureusement, la réalité est tout autre. De la même manière, idéalement, les églises locales, les croyants devraient tout être dans les églises locales. La réalité, malheureusement, est tout autre. Donc, il faut garder ça en tête, l'importance de l'église locale. Aujourd'hui, l'église locale est comme méprisée, parce qu'il y a plein d'autres choses à part les églises locales qui se lèvent. Il y a les groupes par église, les associations, les clubs, c'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que ces choses-là ne sont pas mentionnées dans les Écritures. Ce qui est mentionné dans la Bible, c'est les églises locales. C'était à l'église locale de Jérusalem que les fonds étaient donnés pour répartir les fonds pour les pauvres. Aujourd'hui, il y a Oxfam, il y a toutes les choses à qui on peut donner pour les pauvres. C'est parfait, c'est très bien, parce que l'église locale, malheureusement, souvent ne fait pas sa job. Ou les églises locales, devrais-je dire, font pas leur job. Malheureusement. Mais dans le meilleur des mondes, on donnerait à l'église locale, et c'est l'église, ou aux églises locales, et c'est les églises locales qui feraient leur job. Qui prendraient soin des pauvres, qui prendraient soin des malades, qui prendraient soin du bien-être spirituel des gens. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des collèges bibliques extra-églises locales. Parce qu'à l'époque, ça se faisait dans les églises locales. Dans la pensée biblique, une église, c'est toujours plus qu'une école, mais c'est jamais moins qu'une école. Dans la pensée biblique, l'église locale, et au minimum, c'est une école, mais c'est toujours plus qu'une école, mais jamais moins. C'est toujours un endroit où est-ce qu'on apprend. Mais non, il n'y a pas de problème. Et donc, il va y avoir des hérétiques qui vont venir vouloir détourner les gens de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre pause là-dessus 2 secondes?
Ouais. C'est parti.
On a vu l'hérétique. Deuxième qui est courant, malheureusement, trop courant, c'est le charlatan. Hein, le charlatan qui, pour lui, l'Évangile, c'est une source de gain. On en voit, là, les télévangélistes, souvent, là, qui font énormément d'argent, mais pour eux, c'est l'Évangile, ils ne sont pas là pour l'Évangile. Ils sont là pour ce que l'Évangile leur rapporte financièrement. Et ils vont entraîner les croyants, souvent loin des églises locales, par des messages qui sont attrayants pour que, justement, les gens payent, puis ils veulent les garder captifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés à leur argent. Paul va en parler de ces gars-là. Il va dire, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Il dit, croyant que la piété est une source de gain. Ces gars-là croient que la piété est une source de gain. Et c'est là leur motivation. Donc, c'est des charlatans. Vous savez, c'est quoi un charlatan? C'est justement quelqu'un qui qui va faire à quoi n'importe quoi à n'importe qui pour avoir de l'argent. Hein? Souvent, on voit ça dans les images, dans les Lucky Luke, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les Lucky Luke, là. Mais il y avait... il traînait une chariole, là, puis il disait « L'huile de serpent, ça guérit tout. L'élixir de serpent guérit tous les maux. » Mais ça, c'est des charlatans. Malheureusement, il y en a dans l'Église. Ou en tout cas, qui se disent chrétiens. Et c'est une, ils veulent justement corrompre les gens pour une source de gain. Ensuite, il y a le faux prophète. Troisième sorte de personne qui va venir. Le faux prophète, lui, il dit parler au nom de Dieu. Lui, quand il parle, c'est parole de Dieu. Hein? J'étais avec Julie dans un petit village, pas loin des lignes. Et puis, la personne me voit. C'était la première fois qu'elle me voyait. Et... me dit, commence à me dire tout mon pedigree, toute mon histoire. T'sais. Et je le vois utiliser. Avant d'être chrétien, je tirais aux cartes. T'sais, avant, là, il y a très, très longtemps. Et j'avais le même genre de questions. Je posais des questions pour essayer de voir où est-ce que l'autre était, comment l'autre, tu sais, pour essayer de pouvoir y prédire des choses plus proches de la vérité. Et je voyais que le gars faisait le même genre de questions, le même genre de tactique que moi, j'utilisais dans le temps que je tirais aux cartes. Pas un cap qui me disait quoi que ce soit, c'est la personne qui me disait tout ce que je voulais savoir. Puis là, j'inventais ce que je voulais pour faire plaisir au gars. Il me dit, faisait la même chose. C'est un faux prophète. Et puis après ça, on se rassemble pour un message. C'est cette personne-là qui parlait et commence à dire que finalement, Hitler, il avait fait la volonté de Dieu et donc Hitler était sauvé. Imagine-toi. Hein? Non seulement il disait n'importe quoi, il prophétisait des erreurs. Il me dit, à un moment donné, il me dit, t'as-tu des sœurs? Oui. T'as-tu des frères? Oui. Ils sont plus jeunes? Je dis non. Ah, ils sont plus vieux, c'est ça, plus vieux. Il dit, tu t'entends bien avec eux autres? Non, pas du tout. Ah non, c'est ça, tu t'entends pas bien avec eux autres? Vraiment, là, comme ça, tu sais, ah boy, c'est comme ce que je faisais dans le temps. Il était même pas subtil, tu sais, moi, un peu plus de subtilité, tu sais. Mais en tout cas, fait que le faux prophète, c'en est ça. D'ailleurs, justement, là, un Jean va dire, « Ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et les gens qui se disent prophètes de Dieu, qui disent parler au nom de Dieu. Et il y en a des faux prophètes. Et comment est-ce qu'on va savoir s'ils sont vraiment de Dieu ou pas? Mais t'ouvres tes oreilles, t'ouvres tes yeux. C'est pas parce qu'ils disent parler au nom de Dieu que ça vient de Dieu du tout. Au contraire. Si quelqu'un dit être un prophète ou dit, OK, la Bible dit que le prophète parle et que les autres jugent. On est mandaté d'avoir un plus grand regard critique sur quelqu'un qui se dit prophète que sur quelqu'un qui vient comme ça. Il ne faut pas laisser de côté notre esprit critique. Au contraire, il faut évaluer Bible en main, voir si ce qu'il dit c'est vrai. Puis souvent, les faux prophètes arrivent, disant parler au nom de Dieu et enseignent des hérésies. Ce qu'on a vu, le premier hérétique. Là. La différence entre l'hérétique et le faux prophète, c'est que l'hérétique, lui, il enseigne ce qu'il pense être la Bible. Ou en tout cas, il enseigne des choses au nom de la Bible. Mais le faux prophète, en plus, il dit, « Ben moi, je parle au nom de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. » Puis si tu t'opposes à lui, ben tu t'opposes à Dieu. C'est pas, tu dis pas qu'il se trompe, tu dis que Dieu se trompe. Calme. Je suis pas d'accord avec toi. Dieu, c'est une autre histoire. Tu sais, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a après un an, j'étais sur Facebook, et puis j'ai une discussion avec quelqu'un, puis disant, c'est ça, hein? Tu penses que Dieu ne peut pas faire ça, il n'est pas assez grand pour faire ça. Je dis, est-ce que je cherche en lui de parler à toi, là, je parle pas à Dieu. Il y a une différence entre les deux, s'il vous plaît. On se garde une petite gêne. Mais malheureusement, c'est ça. Alors le faux prophète lui dit, je parle au nom de Dieu. Quand je parle, Dieu parle. La Bible peut-être, mais pas toi. C'est pour ça que je fais très attention. Si je le dis, reprenez-moi. Mais c'est pour ça que normalement, je ne dis jamais Dieu, à part que quand je cite les Écritures. Mais quand je dis Dieu m'a dit, là, Dieu semble m'avoir dit, ou Dieu semble m'avoir montré. Je fais, tu sais, j'ai pas parole de... Moi, là, je fais très attention quand j'utilise le nom de Dieu, parce que je peux prendre le nom de Dieu en vain, puis je veux pas faire ça. Fait que si je pense avoir vu quelque chose de la part de Dieu, ben je pense que, mon impression que, peut-être que. Parce que dès lors que je dis, Dieu a dit, ben là, tu peux pas me contredire, là, tu contredis Dieu. Hein? Fait, non. Je pense que Dieu dit, ou je pense... Ça, si je le dis, Dieu a dit, à part que je sais les Écritures, là, c'est vrai. Mais sinon, là... Hein?
Que la lumière.
Oui, c'est ça. C'est, sinon, là... non. Ensuite, il y a l'abuseur. L'abuseur qui vient dans les églises, qui cherche les faibles, qui veut diriger la vie des faibles, les écraser, les faibles. Paul va parler des gars qui rentrent dans les maisons, qui vont séduire les femmes qui sont plus faibles, hein, qui vont utiliser son charisme, son pouvoir spirituel, ou en guillemets, pour essayer de séduire les gens, détourner les gens des églises locales, ou essayer de faire les petits clics dans l'église. Hein, c'est des gens qui veulent être le seigneur des vies des gens. Hein. Ça, c'est l'abuseur. Le diviseur, ça aussi, ça en est un autre. Hein. Cinquième, le diviseur, lui, il veut perturber ou détruire l'église. Lui, il va rentrer dans une église, peut-être qu'il est déjà là, puis pour une raison ou une autre, il va essayer de faire un petit groupe puis de scinder l'église en deux pour se faire... Il ressemble à l'abuseur, mais il est plus subtil, peut-être. Tu sais, il va essayer de séparer le troupeau, de diviser le troupeau. Ça aussi, la Bible en parle beaucoup. Il vous disait qu'au dernier temps, c'est dans Jude 18 à 21, il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ce sont les hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors Jude prévient ça. Il dit, faites attention à ceux qui veulent causer des divisions, qui rentrent dans l'Église, qui veulent séparer les frères, séparer les sœurs. Faites attention à ces gens-là. Ça, c'est le cinquième personne. On en a vu. Il y en avait six à voir. Je suis rendu au sixième. Et je l'appelle le chatouilleur. Le chatouilleur. Pourquoi le chatouilleur? Mais c'est à cause du passage de 2 Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et dans certaines versions anglaises, ça dit il va se faire chatouiller l'oreille.
C'est quoi la...
Dans 2 Timothée 4, 3 à 4. Hein? Ils ont des démangeaisons. Tu sais, ça, s'ils veulent se faire gratter les oreilles pour se faire flatter dans le bon sens du poil. Hein? Les chatouilleurs, souvent, là, ils sont intéressés par ce que les hommes veulent ou ce que les hommes voudraient entendre, puis ils ne sont pas vraiment intéressés à ce que Dieu veut qu'ils disent. Ils sont intéressés à ce que les hommes, ce qui plaît aux hommes, mais ils ne sont pas intéressés aux standards de Dieu sur les choses. Ils vont souvent abaisser les standards ou dire, ah, ben c'est pas si grave, ou ben, tu sais, ils vont essayer de plaire aux hommes pour avoir une suite, chatouiller les oreilles des gens pour, justement, avoir des gens qui les suivent. Ça, c'est les chatouilleurs. Qui disent des choses agréables, hein, parce que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Et on est rendu là souvent. Hein. Les gens écoutent la saine doctrine, ne veulent pas l'entendre et vont se tourner vers des gens qui vont dire des choses qui leur plaisent. Ils vont dire des choses qui leur plaisent. Et ça, c'est. Et ça, il faut faire attention à ça. Donc, on a vu 6 genres de personnes qui s'introduisent dans les églises ou qui tournent autour des églises. Et qui peuvent séduire des gens qui sont mal affirmés, qui sont soit plus dans les églises ou qui vacillent à savoir s'ils vont rester dans une église locale ou pas. On a vu l'hérétique qui va enseigner clairement des choses qui sont contraires à la foi. On a vu le charlatan qui va vouloir enseigner les choses comme une source de gain. On a vu le faux prophète qui va déclarer les choses au nom de Dieu alors qu'il parle juste de lui-même. On a vu l'abuseur qui va vouloir régner sur la vie des gens, qui va vouloir écraser les gens, les femmes. La Bible parle d'hommes qui s'introduisent dans les maisons vers les femmes faibles pour essayer, soit à cause Ils veulent soit avoir du pouvoir par sensualité ou par financièrement, ou essayer d'abuser les gens sur différents domaines, hein, tout en utilisant la religion, entre guillemets, pour faire ça. T'sais. On a vu l'abuseur, le diviseur, celui qui va diviser les églises, et le chatouilleur qui est juste intéressé à plaire aux gens, à enseigner des choses qui sont agréables à entendre pour que détourner les gens de la vie. Fait que c'est ça. Fait que Dieu vous bénisse abondamment.